There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Agleté, de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de L'Actu dans la Poche vous est présenté par Gabriel Taïeb.
De vieilles photos, des lettres, des notes dans un carnet, ou encore des flyers, des badges ou des t-shirts, une archive peut prendre bien des formes. Elle peut être un détail presque insignifiant qui vient s'ajouter à la grande histoire, ou bien une pièce centrale pour mieux comprendre le passé. C'est d'abord un souvenir, un témoignage d'une époque et de l'existence d'un événement, d'un mouvement, d'un groupe de personnes ou d'une identité. Hébergé au sein de l'association bordelaise Le Gyrophare, le collectif La Boîte sous le lit, Archives et Marges se donne pour mission de transmettre, visibiliser et garder en mémoire l'histoire des communautés LGBTQIA+. Dans leurs locaux, nous sommes accueillis par Alix Briex, membre du collectif.
Donc moi, c'est Alix Briex. Effectivement, je fais partie du collectif La Boîte sous le lit, Archives et Marges. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille autour d'un fonds d'archives qui est à côté de nous en ce moment même, qu'on conserve et qu'on cherche à valoriser. Donc le valoriser, ça veut dire partager les documents dans des événements publics, par exemple, ou aller à la collecte de nouveaux documents, de nouvelles histoires, avec pour but de partager en fait notre mémoire communautaire, mais surtout pour projet à long terme d'ouvrir un centre d'archives LGBTQI à Bordeaux. Notre collectif, il est assez varié. C'est ce qui me plaît pas mal. C'est que dedans, on a autant des artistes que un historien, des gens qui ont un background sociaux, des documentaristes, des passionnés, bien sûr des LGBTI. Évidemment, en fait, on vient tous apporter notre pierre à l'édifice avec nos expériences de vie, nos expériences pro, nos envies personnelles. Et je trouve ça plutôt chouette. C'est assez varié même au niveau des âges, et on a vraiment comme principe un peu, c'est un principe d'horizontalité et d'entraide, c'est-à-dire qu'il y a des archivistes qui ont rejoint le collectif et ils viennent, et à chaque fois qu'on est en train de regarder les archives, ils nous apportent leurs compétences. Donc il y a cette idée de transmission de compétences et d'expériences. C'est ce qu'on essaie aussi de montrer quand on fait des ateliers participatifs, c'est qu'on est tous des archivistes en herbe, on est tous et toutes capables de gérer des archives et de faire partie de ce projet.
Concrètement, qu'est-ce qui constitue une archive? Sur quels critères on se base pour décider ça c'est une archive, ça ce n'est pas une archive? Et ce travail d'archive, ces documents, finalement à quoi ça sert? Pourquoi c'est important justement de conserver cette mémoire et de valoriser cette mémoire?
Alors, qu'est-ce qu'une archive? C'est presque une question philosophique. Mais tout peut être archive. Souvent, dans l'imaginaire, quand on pense à une archive, on imagine un vieux bouquin ou un vieux parchemin. Alors, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la seule typologie d'archive. Un t-shirt, ça peut être une archive. Une banderole de manif, ça peut être une archive. Un badge, ça peut être une archive. En fait, tout type d'objet qui est lié à une histoire particulière peut être considéré comme une archive. Et donc, ça implique d'être conservé, être valorisé, être gardé en mémoire, légendé, etc. Ça va être plutôt ce geste de la conservation qui va transformer un objet en archive. Pendant l'atelier qu'on a fait, par exemple, au FestiQueer avec Isabelle Santis, Isabelle a ramené un caillou. Donc, on va dire, c'est un caillou, d'accord. mais c'était un caillou ramassé à Ravensbrück, donc le camp d'internement dans lequel ont été internés Marguerite Chabiron et Christiane Moreau, qui étaient deux lesbiennes, qui ont d'ailleurs été enfermées à Bordeaux avant leur déportation, dont on était en train de parler ce jour-là. Donc, un caillou, ça peut être une archive. Et donc, pourquoi est-ce qu'on conserve les archives? L'idée, c'est que souvent, nos parcours de vie en tant que personnes LGBT sont souvent invisibilisés, sont souvent oubliés, mis de côté, détruits par nous-mêmes pour notre propre protection ou par les proches. Et on a cette espèce de vaste manque de besoin de se raccrocher à une histoire dont on a perdu la trace, soit parce que les documents ont effectivement été détruits, soit parce qu'on n'a pas pensé, parce qu'en fait, l'identité LGBT, c'est un peu un impensé. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, quand on apprend l'histoire, même que ça soit à l'école, en lisant des livres, souvent, la partie LGBT d'un personnage historique va être complètement effacée. Ça va être jamais mentionné. Donc, en tant que personne LGBT, on a souvent cette envie, ce manque, ce besoin absolu, viscéral de se reconnaître dans des personnages du passé. Bien sûr, parce que souvent, dans nos propres familles, bah, nos parents ne sont pas queer. On n'a pas forcément... Peut-être, oh, il y avait une grande-tante qui vivait avec une amie, entre guillemets, ou ce genre de choses. Souvent, c'est effacé par le tabou familial où on n'a simplement pas de représentation autour de nous. D'où, en réaction, ce besoin de se dire « Mais il y en avait d'autres, des PD avant moi. Il y en avait d'autres, des trans avant moi. Ils sont où ? J'ai envie de les trouver et de vouloir aller chercher ces histoires-là. » Mais ce n'est pas seulement pour le bien-être ou l'identification des personnes LGBT. C'est aussi de dire « Voilà, on est là. On a existé depuis la nuit des temps. En voilà la preuve. » Donc, c'est aussi pour la société au sens large de conserver le plus grand éventail de points de vue possibles sur nos existences. C'est une preuve concrète, matérielle, que les personnes LGBT ont existé depuis la nuit des temps et qu'elles ont eu toutes sortes de vies, des vies remarquables, des vies banales, des vies inintéressantes, des vies foutraques, qu'il y en avait autant qui étaient... lesbienne, gay, bi, trans, qui était noir, blanc, qui habitait à la campagne, qui habitait à la ville, qui était de droite, de gauche, du centre, anarchiste, tout ce qu'on veut. En fait, d'avoir tout ce panel de représentation, c'est une manière pour nous d'encapsuler les histoires LGBT, sachant qu'on ne pourra pas avoir des archives sur toutes les personnes du monde, donc il y aura toujours des manques. Mais d'essayer d'avoir une représentation la plus réaliste et la plus représentative de l'état de la communauté LGBT.
Vous avez parlé de preuves d'existence. C'est vrai qu'il y a un discours LGBT-phobe qui est assez présent depuis quelques années, de dire, voilà, il y a des modes, il y a des tendances pour parler de communauté LGBTQIA+. Donc c'est aussi une façon de montrer, non, au final, ce sont des communautés qui ont toujours existé, ce sont des personnes qui ont toujours existé, et voilà les preuves concrètes que c'est plus un phénomène d'invisibilisation de toutes ces identités, c'est bien ça?
C'est ça, il y a un truc un peu existentiel d'exister dans une archive. On ne meurt pas tout à fait, en fait, parce que notre histoire, elle va être pérennisée par le document d'archive. La preuve, comme on disait, dans la boîte sous le lit, il y a la lettre de ton ex, c'est bien la preuve que tu as eu cet ex, c'est la preuve qu'elle a existé, c'est la preuve qu'elle a aimé une personne d'une manière LGBT, et dans 100 ans, on la retrouvera, et il y aura cette preuve-là, et donc... Il y a quelque chose de garder une trace de son existence, c'est un peu survivre à la mort. C'est un peu intense dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Alors oui, Tu dis depuis quelques années qu'il y a ce genre de discours. Oui, ce n'est pas nouveau non plus, ce genre de discours. Et ça fait aussi partie des archives qu'on conserve. C'est-à-dire qu'on ne conserve pas que des archives qui sont LGBT-friendly ou qui vont soutenir les personnes queer. On conserve aussi tout ce qui est revue de presse, de discours contre. Donc, comme on parlait, on a un fonds SIDA, un fonds PAX, évidemment, qu'à cette époque-là, dans les journaux de presse générale, il y avait des articles qui étaient contre les personnes LGBT, contre le PAX, qui nous traitaient de zoophiles, de pédophiles ou que sais-je, comme on a vu pendant les débats sur le mariage pour tous, comme on voit maintenant sur les personnes trans. C'est la preuve que ce discours n'est pas nouveau non plus. D'où le fait de parler, d'avoir vraiment une espèce de capsule représentative de la société à un moment donné, ça veut dire les personnes LGBT, mais aussi la réaction de la société autour en fait partie. Et la volonté de nous s'élancer, de visibiliser nos existences, elle n'est pas nouvelle du tout. Il faut se rappeler, quand on parle des nazis qui brûlaient les livres, souvent, malheureusement, quand on en parle en cours d'histoire, on oublie de mentionner quel type de livres sont brûlés sur la fameuse photo qu'on étudie. Ce sont les documents de l'Institut Hirschfeld. Donc, c'était un institut tenu par Magnus Hirschfeld, qui était un espèce de centre queer, qui était un pionnier à l'époque pour la transition. C'est-à-dire que dans cet institut, il accompagnait les personnes trans à faire des transitions médicales, mais aussi dans leurs démarches administratives. C'est ça les documents qu'ils ont supprimés, c'était les documents pionniers qui traçaient les parcours médicaux des personnes trans. Et donc on a toute cette connaissance qui a été acquise par ce centre qui a été perdue parce que les nazis les ont brûlés.
À l'occasion d'une session de tri des archives, nous avons eu l'opportunité de rencontrer d'autres bénévoles du collectif qui ont pu nous expliquer les raisons de leur engagement.
Du coup, moi, c'est Loïs. Et là, c'est la première fois que je participe à une réunion après que j'ai découvert le collectif au TEDOR qui s'était passé à l'espace 29, où du coup, ils avaient présenté tout leur travail que je ne connaissais pas du tout jusqu'ici. Et c'était des choses qui m'intéressaient, les archives LGBT avant, mais que je pensais pas du tout qu'il y avait un collectif à Bordeaux qui bossait dessus. Et ouais, pour moi, c'était important aussi de voir, de connaître une filiation, en fait, avec les identités queer d'aujourd'hui et celles d'avant, et voir ce qui existait avant, et découvrir des documents, enfin vraiment des choses qui ont été déposées, ou même des personnes qui ont vécu ces moments. Il y a plein de choses à voir, ça donne envie de tout feuilleter. Et après, je pense que là, je ne me rends pas compte de l'ampleur de ce qu'il y a, mais ça a l'air génial, tout ce qu'il y a dans les boîtes à fouiller, quoi.
Oui, alors mon prénom, c'est Jean-Éric. Je suis là que depuis peu, parce qu'ils cherchaient un archiviste et que ma fonction est archiviste dans une administration, ici. C'est juste pour aider. Après, je suis homo, ça c'est sûr. Je ne connais pas du tout le milieu associatif. Et puis, je voulais, puisque j'approche de la retraite, c'est pouvoir découvrir un petit peu ce milieu et savoir les activités qu'il pouvait y avoir.
En tant qu'archiviste professionnel et donc bénévole, pour vous, pourquoi c'est important de garder tous ces documents, de les transmettre, de les valoriser ?
Mais justement, c'est parce qu'à force de découvrir certaines revues que j'ai vues des années 80 sur les périodes du sida, moi-même suffisamment concerné là-dessus, il faut garder la mémoire. Et cette mémoire-là, si on ne la garde pas, on est foutu. Et il y a pas mal de... On s'est aperçu que la société a besoin d'avoir des racines. Et ces racines-là, on les a par le biais de l'histoire. L'histoire, ça vient de l'histoire de notre pays. Ça peut venir sur le travail, sur les associations à laquelle beaucoup s'investissent. Et puis, ça permet comme ça d'avoir une identité. Voilà.
Je m'appelle Anaïs et je suis arrivée dans le collectif en janvier là, cette année. Donc, c'est tout frais. Et ça fait grand plaisir. Moi, avant, j'avais fait un peu d'histoire à la fac et de la recherche et tout. Je n'ai pas continué là-dedans. Et là, ça me fait plaisir de remettre le nez dans ce genre de domaine. Surtout, étant moi-même une personne concernée en termes de genre et de sexualité, ça donne un nouveau sens aussi au fait de replonger dans l'histoire. Et d'une manière, avec les archives, et c'est émouvant de voir l'évolution au fil des années des communications, du vocabulaire aussi, du langage. C'est intéressant de voir dans les flyers comment on parle de nous, comment nous-mêmes on parle de nous aussi, etc. Il y a plein de choses très très chouettes, et puis la notion de mémoire aussi évidemment qui est importante. C'est émouvant de voir des documents qui témoignent de nos vies, quoi.
Je fais une sous-chaîne à trier pour les trucs qu'on ne sait pas quoi faire, hein. Il y a des choses bizarres.
Oh, bah, y a des cassettes et tout.
T'as vu ça ? Il y avait même des cassettes.
Une fois que ces archives sont collectées, triées, stockées, etc., en quoi ça consiste, le travail de médiation autour de ces archives ?
Notre but, c'est que nos boîtes, elles ne restent pas fermées. Notre but, c'est qu'elles soient accessibles, c'est que les personnes puissent s'en saisir et qu'elles soient connues, de les partager. Donc, ça passe par des événements publics. Donc, souvent, on va aller sortir des archives spécifiques selon le thème de l'événement et permettre aux gens de les regarder, de les toucher. S'il faut, on fait des photocopies pour que le public puisse s'en saisir, en fait, et d'avoir vraiment ce rapport un peu direct avec l'archive. C'est aussi une manière de la désacraliser, parce qu'on a cette idée que, voilà, on parle d'archives, on imagine un endroit très, très, très sérieux, où on n'a pas le droit de parler, où il n'y a que des vieux parchemins qui puent. C'est quelque chose qui semble inaccessible, intellectuel. Ça fait un peu peur, ça peut être intimidant. Donc, nous, on essaie de lutter contre ça. Les archives, c'est quand même merveilleux. C'est plein d'amour, c'est super fun. Et on fait ça souvent par des ateliers participatifs, du coup. Ce qu'on a à cœur, le principe d'éducation populaire. Donc l'idée que voilà, chacun est un archiviste en herbe. On est tous capables, on est tous au même niveau de légitimité pour parler d'archives, pour partager autour des archives. Et on n'est pas plus intelligent ou plus capable que les participants.
Et quelqu'un qui aurait sa propre boîte sous le lit ou peut-être la boîte sous le lit d'un proche, est-ce qu'il peut vous contacter pour que vous puissiez jeter un œil à ces archives, voir si ça vous intéresserait de les récupérer ou en tout cas accompagner cette personne pour savoir comment valoriser ce fonds d'archives ?
Mais bien sûr, allez-y, envoyez-nous un mail. Alors actuellement, on n'a pas encore la capacité de stocker plus d'archives. Mais bien sûr, si c'est un cas d'urgence du type « je déménage à l'étranger et je vais brûler toutes mes affaires » ou des choses comme ça, on va faire un sauvetage express d'archives. Mais de manière générale, on n'a pas l'espace pour pouvoir en collecter plus et pouvoir en stocker plus dans de bonnes conditions. Mais on est toujours preneur pour que les gens nous contactent et nous parlent de leurs archives, nous le montrent. C'est un peu le but du collectif, c'est aussi de faire des rencontres.
Actuellement, nous sommes début juin, donc début du mois des fiertés. Quel est un petit peu le calendrier pour le collectif ? Est-ce qu'il y a des événements particuliers à venir ou des échéances, des projets qui vont être montés à terme, par exemple à la rentrée prochaine ?
Mais bien sûr, déjà le 3 et 4 juin à Lyon, pour les assemblées générales des archives et bibliothèques queer organisées par Big Tata, qui est une espèce d'énorme colloque, séminaire, rencontre avec tous les collectifs et associations de bibliothèques et d'archives queer en France. Il y a tout le monde qui se rejoint pour un magnifique week-end, un peu pour lancer ce projet de faire un véritable réseau d'entraide entre tous les collectifs. Ensuite, le 10 juin, c'est la marche des fiertés. Donc, nous serons là, évidemment, dans la marche. Nous voulons faire marcher le magnifique patchwork qui a été fait avec le collectif Atelier Craft à Bordeaux en hommage à Marguerite Chabiron et Christiane Moreau, donc les deux lesbiennes résistantes qui font partie du projet de Constellation Brisée dont on a parlé au FestiQueer. Et nous aimerions inviter les personnes à nous rejoindre pour le moment de commémoration, alors malheureusement qui n'est pas assez connu. En fait, à toutes les marches de fierté, il y a un moment de pause. C'est pas juste pour que les gens aillent boire de l'eau ou aillent aux toilettes, même si c'est cool. En fait, c'est un moment de recueillement en hommage aux personnes LGBT persécutées durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un moment de recueillement communautaire. Malheureusement, on remarque qu'année après année, il y a de moins en moins de monde qui viennent. On pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Donc on aimerait cette année lier ça un peu avec notre travail autour des mémoires de personnes LGBTI durant la Seconde Guerre mondiale. On va aussi faire un discours. Donc venez, les personnes qui viennent à la marche, il faut nous rejoindre.
Pour suivre et soutenir les actions du collectif La Boîte sous le lit, rendez-vous sur leur page Instagram ou bien sur les réseaux de l'association Le Gyrophare.
Merci Gabriel Taïeb, c'est la fin de cet épisode de podcasting L'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garay-Cochea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.